VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise en Gambie. Le nouveau président gambien Adama Barrow prêtera serment ce jeudi après-midi à l'ambassade de Gambie au Sénégal, a annoncé son porte-parole. Et ce, après l'expiration du mandat du chef de l'État sortant, Yahya Jammeh, qui refuse de lui céder le pouvoir. La cérémonie aura lieu à l'ambassade à Dakar, à 16h, local État universel, a souligné ce porte-parole Alifa Salah à Banjul. M. Barrow est depuis le 15 janvier au Sénégal, voisin, dans l'attente de son accession au pouvoir, et ce, à la demande de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Par ailleurs, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a donné son accord pour un éventuel déploiement de 205 militaires en Gambie dans le cadre d'un mandat régional ouest-africain en appui du Nigeria et du Sénégal pour imposer le président élu gambien Adama Barrow face à Yahya Jammeh. Décision annoncée hier soir par le porte-parole de la présidence ghanéenne, Eugène Orin. Et toujours concernant la crise gambienne, la mission de la dernière chance du président mauritanien Abdelaziz n'a pas abouti malgré ses déplacements en Gambie et au Sénégal. Une intervention militaire semble plus que probable si la situation n'évolue pas. De Dakar, notre correspondant Sedina Abba Gueye.
Dans la journée du mercredi, la force d'intervention de la CEDEAO s'est dit prête à intervenir à Gambie si Yahya Jammeh ne quittait pas le pouvoir à minuit, temps universel. Ce délai expiré, les militaires étaient toujours dans l'attente d'une intervention imminente en Gambie, même si le chef d'état-major des armées gambiennes a assuré qu'il n'engagerait pas ses hommes dans un conflit armé. À quelques heures de l'investiture du nouveau président Adama Barrow, l'incertitude plane toujours sur le lieu de sa prestation de serment. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a assuré qu'il se ferait en territoire gambien. Face à cette situation délicate, les Gambiens continuent de trouver refuge par milliers au Sénégal. Sedina Abba Gueye, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Selon les derniers chiffres des autorités sénégalaises, 26 000 personnes ont traversé la frontière entre la Gambie et le Sénégal entre le 1er et le 16 janvier. Les équipes du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, parlent, elles, de flux ininterrompu. On écoute Hélène Co, la porte-parole du HCR à Dakar, au micro de Tatiana Mosso.
La plupart des gens qui passent, en fait, ce sont des enfants. 75% à 80% sont des enfants accompagnés par des femmes. Ça veut dire que les parents, les familles qui habitent en Gambie ont pensé avant tout à mettre leurs enfants à l'abri au Sénégal. Ces personnes qui arrivent, ces enfants qui arrivent, restent principalement chez des membres de leur famille, du côté sénégalais, ou dans des familles hôtes. Et c'est vrai que l'une des priorités du gouvernement sénégalais comme des agences humanitaires, ça va aussi d'être sûr que ces familles puissent avoir suffisamment de ressources pour aider les nouvelles arrivées.
Est-ce que ces réfugiés sont uniquement des Gambiens ?
Ce sont des flux mixtes, ce sont des personnes de différentes nationalités, différents profils qui arrivent. Il y a des Gambiens, il y a des Sénégalais, il y a des gens qui ont la double nationalité sénégalaise et gambienne. Les équipes du HCR rapportent aussi qu'il y a des Ghanéens, des Libériens, des Guinéens, des Mauritaniens qui partent la Gambie pour temporairement au moins venir au Sénégal. Ce qu'il faut aussi noter quand même, c'est qu'il y a toujours eu de toute façon entre les deux pays un flux, un trafic transitoire normal, puisqu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a toujours eu forcément beaucoup d'échanges commerciaux ou de gens qui passaient pour aller voir des membres de leur famille.
Pour vos équipes, quelle est l'urgence lorsqu'ils accueillent ces réfugiés à la frontière ?
Les autorités sénégalaises sont présentes, bien sûr, sur le terrain, qui recensent en fait les gens qui arrivent, des chiffres au niveau de leurs besoins. Les gens qui arrivent sont en bon état de santé, ils viennent juste de quitter, ils arrivent soit en bus, soit avec leur propre voiture. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gros besoins immédiats. Mais par contre, c'est vrai qu'ils vont rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en restant dans des familles autres, il va forcément y avoir des besoins auxquels il va falloir répondre. Les autorités sénégalaises ont communiqué qu'elles étaient prêtes à assister rapidement jusqu'à 50 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 personnes qui vont passer, mais leur plan de contingence immédiat, c'est ça. Leur plan de contingence à plus long terme, c'est jusqu'à 100 000 personnes. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à distribuer très rapidement dans les jours qui viennent des denrées, notamment de l'huile, du sucre, puis aussi des couvertures, des draps, des nattes, donc de l'assistance de première nécessité pour aider les gens qui arrivent.
Hélène Co, porte-parole du HCR à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, 19 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré, qui avait projeté de libérer des collègues emprisonnés après le putsch raté de septembre 2015, ont été condamnés mercredi à Ouagadougou à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme. Le caporal Madi Ouedraogo, le cerveau présumé du projet, et son complice le sergent Mahamadi Zalé ont été condamnés à 15 ans de prison. Un civil, Tchèk Alassane Ouedraogo Diladji, imam présenté comme le marabout du groupe, a également écopé de 15 ans de prison, portant à 20 le nombre total de condamnations. Mali, le groupe du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI, a revendiqué mercredi l'attentat suicide qui a fait une cinquantaine de morts parmi les combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali. Le groupe identifie l'auteur de l'attaque comme Alder Hadi Al-Foulani, indiquant son appartenance à l'ethnie Peul dans un communiqué diffusé par l'agence mauritanienne Al-Akhbar et SAIT, centre américain de surveillance des sites djihadistes. Pour sa part, le gouvernement malien a affirmé que l'attentat avait été perpétré par plusieurs personnes, faisant état de 5 kamikazes. Burundi, des membres des Imbonera Kure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, ont brutalement tué, torturé ou tabassé des dizaines de personnes dans tout le pays ces derniers mois. C'est ce qu'a dénoncé ce jeudi Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Les Imbonera Kure, que l'ONU qualifie de miliciens, jouissent d'une impunité quasi totale, le gouvernement hésitant à les sanctionner, accuse l'ONG dans un rapport. Le Kenya vient de se doter d'une nouvelle commission électorale en remplacement de la précédente jugée partisane par l'opposition. Il faut dire que la fièvre électorale a gagné le pays à moins de 7 mois d'élection générale qui s'annonce tendue. Jacques Aristide.
Le président Uhuru Kenyatta, candidat à sa réélection le 8 août prochain, a formellement désigné les 7 membres de la nouvelle commission électorale. Un avocat de formation originaire de l'ouest du pays, Wafula Wanionii Chebukati, présidera la nouvelle équipe et sera secondé par 6 commissaires, 3 femmes et 3 hommes. La précédente commission avait démissionné en octobre 2015 sous la pression de l'opposition qui, lors de manifestations, avait dénoncé le caractère partisan de cette commission. Cette même équipe sortante avait supervisé l'élection présidentielle de mars 2013, entachée par la défaillance du système biométrique d'enregistrement des électeurs, ce qui avait conduit l'opposition à douter de la capacité de la commission à organiser des élections crédibles. Les scandales de corruption ont fait le reste.
On passe maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. On place ce jeudi au match du groupe B à Franceville. À 16h universel, il y aura le duel du Maghreb, Tunisie-Algérie. Et puis à 19h, le leader de cette poule, le Sénégal, aura un match piège face au Zimbabwe, qui a fait douter l'Algérie lors de la précédente journée. Hier, dans le groupe A, au stade de l'Amitié à Libreville, le Gabon et le Burkina Faso ont encore fait match nul un partout. Et puis, les Lions indomptables du Cameroun ont défait une équipe héroïque de Guinée-Bissau 2-1. Avec cette victoire, le Cameroun prend la tête du groupe A avec 4 points. Nicolas Pineau.
Les Licas ouvrent la marque dès la 13e minute de jeu. Ils auraient même pu doubler la mise avant que les Camerounais ne se libèrent à la 59e minute grâce à un but égalisateur de Sébastien Siani. À la 75e minute, c'est Ngadéou qui libère le Cameroun. Le score ne changera pas. 2-1. Dommage pour la Guinée-Bissau qui méritait mieux. Écoutez les explications du joueur camerounais Georges Mangebec.
Bah, je pense que la première période, on n'était pas dedans. Ils étaient mieux que nous dans l'envie, dans l'impact. Donc, on s'est dit plein de choses à la mi-temps. Donc, on n'a pas montré le meilleur visage du Cameroun, des Lions indomptables. Et on a tout donné en deuxième mi-temps et on a pu renverser la vapeur. On savait que voilà, c'était une équipe sous coup de pied arrêté qui pouvait décanter une situation. On n'a pas été attentif, donc voilà, mais on n'a pas baissé les bras, on a essayé de jouer, on a joué contre une équipe qui était très basse et il fallait être patient pour pouvoir trouver la faille. On a su le faire, on a attendu la fin pour pouvoir débloquer la situation.
Georges Mangebec, joueur camerounais sur VOA Afrique.
Merci Nicolas Pineau. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.